Alors ce matin, nous allons parler d'argent et de richesse. C'est un sujet un peu tabou quand même dans notre pays qui est un des plus riches du monde. C'est bon de se le rappeler de temps en temps. Et je me suis amusée à regarder où se situe la France parmi les pays les plus riches. Alors il y a beaucoup de critères qui peuvent varier. Le critère le plus classique, c'est celui du produit intérieur brut, le PIB. La France est à la 7e place. Avec d'autres calculs, en prenant notamment le pouvoir d'achat, la France arrive autour de la 24e place sur 195 pays dans le monde. Et ce qui nous paraît normal chez nous est une exception dans bien d'autres pays. Notre confort est un acquis. Et nous avons du mal à imaginer que l'eau qui sort de notre robinet n'est pas une évidence pour tout le monde. Nous avons du mal à imaginer que quand nous allons aux toilettes ou que nous sortons notre poubelle sur le trottoir, eh bien, cela participe d'une société structurée, d'une organisation dont tous les habitants de la planète ne sont pas bénéficiaires. Notre regard sur ce texte est donc différent si on le lit ici en France ou dans un pays plus pauvre. Et j'ai observé que souvent, eh bien, quand on lit ce texte d'ici, il y a souvent de la culpabilité. On se dit « Ah ouais, il faudrait que je vende tous mes biens aux pauvres. » On se dit aussi qu'il faut bien des riches pour soutenir les pauvres. En tout cas, on est un peu mal à l'aise, on ne sait pas trop comment se situer. Nous connaissons la position de Jésus sur la richesse. On ne peut pas servir deux maîtres. Dieu et l'argent. Et c'est vrai, combien d'exemples autour de nous ou dans les médias nous montrent les dégâts commis par la soif de l'argent. Je pense en particulier à la manière dont on exploite la planète, à la manière je pense en particulier aux déforestations, parce que souvent les déforestations, on a limité un peu les bois précieux qui viennent de l'autre bout du monde pour faire des meubles, mais quand même. Je pense aussi à la manière dont certaines entreprises licencient leurs salariés alors qu'elles continuent à gagner de l'argent, à faire des bénéfices. Je pense à la manière dont certains se complaisent dans leur richesse à côté de la pauvreté, et cela dans tous les pays du monde, et puis sans compter tous les scandales qu'il y a par rapport au salaire de certains dirigeants, etc., etc. L'attrait de l'argent et l'acquis de notre confort nous endorment dans notre société occidentale et nous font perdre le sens de la vie. Parce qu'il est bien question du sens dans cette histoire. Cela commence par un homme qui interpelle Jésus. Alors je fais juste une petite parenthèse. Il n'est pas jeune dans Marc. Il n'est pas jeune non plus dans Luc. Il est jeune uniquement dans Matthieu. Et on garde cette image du jeune homme riche. Mais en fait, il pourrait être vieux, il pourrait être d'un âge mûr. S'il a beaucoup de richesses, ça pourrait être logique. En tout cas, il arrive et on ne connaît pas son nom. Il dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» La question est classique pour son époque. Mais avant de répondre, Jésus ne répond jamais tellement directement aux questions, Jésus s'arrête sur la bonté. Nul n'est bon que Dieu seul. Jésus se démarque de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. On pourrait dire, quand même un peu. Mais en fait, par cette mention-là, il veut se montrer à quel point il est solidaire de notre humanité fragile, pécheresse. Mais on verra plus loin qui pourrait revendiquer cette bonté. Et puis la réponse de Jésus est assez classique. Quelques-uns des 10 commandements, les 10 paroles, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, les commandements sont de forme négative pour nous écarter des mauvais chemins. Ce sont des alertes, des repères. L'homme écoute ce que Jésus lui dit et il dit qu'il les a respectés depuis sa jeunesse. C'est bien. Il pourrait s'en tenir là. ça suffit pour entrer dans la vie éternelle. Il pourrait se satisfaire de la réponse de Jésus, mais il y a quelque chose qui fait qu'il reste là. La réponse de Jésus ne le satisfait pas, il attend. Alors le texte nous dit, Jésus fixa son regard sur lui. Vous savez, parfois quand on parle avec quelqu'un, la conversation se déroule, et puis à un moment, il y a une parole ou une attitude qui nous arrête. Quelque chose se passe entre les deux personnes de plus profond. Jésus le regarde et il sent que le respect des commandements laisse cet homme profondément insatisfait. Jésus laisse parler autre chose en lui que des mots. Il laisse vivre cette partie d'humanité invisible et mystérieuse pour se relier à l'autre dans un lien qui peut devenir communion. Il l'aima, dit le texte. Égapésène en grec, ça vient de agapé, ce mot qui dit amour, amour inconditionnel dont Dieu seul est capable. Et Jésus vient nous révéler combien Dieu nous aime et il l'éprouve dans son corps, dans ses émotions. Alors en voyant cet homme qui reste là avec sa question, avec sa soif d'autre chose peut-être, il lui dit « quelque chose te manque, quelque chose te manque ». Une citation de l'écrivain Chateaubriand disait « Les biens de la terre ne font que creuser l'âme et augmentent le vide ». Et puis on a entendu le prophète Ésaïe « À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas ?» Alors oui, il y a un manque. Et ce que je remarque, c'est que ce manque peut être un moteur pour se mettre en route. Ça a été un moteur pour l'homme, riche, et je le constate quand des personnes viennent me voir, elles sont en recherche, et leur quête est puissante et s'impose à elles. Mais je constate aussi que par rapport à tous ceux qui sont en recherche, bien peu viennent jusqu'ici, car la religion aujourd'hui fait peur. Et elle est souvent confondue avec des sectes. C'est pour cela que des nouvelles spiritualités ont tellement de succès. Car on cherche du sens en ne voulant pas se laisser enfermer par des dogmes et des règles et par une église chrétienne qui a plutôt une image négative aujourd'hui. Les gens ont très peur de se laisser embrigader. Et nous, les protestants classiques, nous sommes tellement discrets que finalement, les gens ne savent pas comment est-ce qu'on vit notre foi. Quelque chose te manque. Je remarque que dans les commandements énoncés par Jésus, il est question de ne pas nuire à son prochain. Ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages. Mais il n'est dit nulle part qu'on doit faire du bien à son prochain. Et là, il va y avoir un paradoxe. Jésus dit à l'homme « quelque chose te manque », mais il va lui demander de se déposséder de tous ses biens. Jésus ajoute le geste vers l'autre, le don à l'autre, aux pauvres, à ceux qui n'ont pas assez pour vivre. La vie trouve son sens quand elle est portée vers les autres. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui grâce à l'engagement de beaucoup de personnes dans des associations qui s'occupent des autres, et tant mieux, parce que ces magnifiques initiatives sont porteuses d'espérance. Si la richesse est partagée, si elle permet de rétablir un petit peu d'équilibre entre les pauvres et les riches, alors c'est un bon outil. N'oublions pas que l'argent n'est qu'un outil appelé à circuler. La bonté évoquée au début du récit est approchée si l'on partage la richesse. Jésus appelle cet homme à la radicalité et lui promet un trésor dans le ciel. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Le récit continue et Jésus dit « Viens et suis-moi ». Finalement, les biens de l'homme riche, ses richesses, n'étaient qu'un écran entre l'homme et Jésus. Jésus lui dit, lui propose cette relation directe avec lui « Viens et suis-moi ». De l'obéissance à des règles, Jésus ouvre cet homme à une qualité dans les relations, avec lui notamment. Et suivre Jésus, c'est partir à l'aventure, où le chemin n'est pas balisé par des règles, mais par l'amour. C'est s'ouvrir à une vie plus grande, plus large, faite d'écoute et de pardon, faite d'attention à l'autre, et faite de bonnes surprises dans les bontés de Dieu. Jésus donne une réponse à l'homme à laquelle il ne s'attendait pas. Il demande ce qu'il doit faire pour être sauvé dans l'au-delà, et Jésus répond, mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu peux entrer dans le royaume, c'est sur terre, là, dans ta vie d'aujourd'hui, en te reliant à moi, en te laissant guider, inspirer au service de tous, avec ma présence, à tes côtés. Le royaume sera accompli dans l'au-delà. Mais il est déjà là, à chaque fois qu'on invite Jésus dans nos vies, qu'on lui permet d'être à nos côtés. Jésus déplace la question « Que faire pour être sauvé ?» en un compagnonnage avec lui, jour après jour. Jésus ne vient pas pour confirmer des règles, mais pour montrer qu'il est lui, le chemin de vie. Mais l'homme devient sombre et repart attristé. Vendre tous ses biens est trop pour lui, et suivre Jésus est trop pour lui. La réponse de Jésus l'emmène trop loin, et cette réaction ne laisse pas Jésus indifférent. Jésus regarde tout autour de lui et il constate les faits sans juger, en disant « mais qu'il est difficile ». Il ne dit pas « c'est mal », il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème n'est pas tant d'être riche, que de savoir si notre richesse et notre confort nous éloignent de Dieu. Si l'acquisition des biens est un but en soi, alors va s'infiltrer la peur. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de ne pas gagner plus. La richesse appelle la richesse et crée toujours plus de nouveaux besoins. Alors écoutons Jésus qui peut nous dire à nous aussi « quelque chose te manque ». Un manque, accueillir non pas comme un problème, comme un drame, comme une difficulté, mais comme une richesse finalement. Parce que dans ce manque, eh bien, il peut y avoir des rencontres. Si nous lâchons prise, il peut y avoir des surprises qui nous arrivent. Ça peut être un lieu d'écoute, ce lieu de manque, et même un lieu de transformation. Alors dans cette écoute et dans cette transformation, nous sommes déjà dans le chemin, sur le chemin, avec le Christ. Amen.